1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis en pleine forme. Non, je suis Jackie Berroyer.
Je suis Philippe Fernandez.
Je suis Émilie Coignan.
Ping-pong. La culture sans limite. Ping-pong.
Ce soir, la table de ping-pong se transforme en vaisseau spatial pour explorer un film de science-fiction métaphysique et une exposition cosmique.
Avec l'artiste Mélie Cohagnan, prix Marcel Duchamp 2015, qui explore l'espace et le temps avec des pixels, des miroirs, mais aussi avec des larmes, de verre, de béton ou de césium, et qui nous invite actuellement à une exposition au scénario cosmique et doucement fatidique, Under the Shadows, jusqu'au 15 août, au Centre Pompidou à Paris.
Et puis avec le comédien et professeur Jackie Berroyer en compagnie du réalisateur Philippe Fernandez pour Cosmodrama. Un film, que dis-je, une messe pour le temps présent, comme dirait Pierre-Henri, dans un vaisseau philosophique rétro-futuriste où l'on se demande bien pourquoi on est là et si l'univers aussi a un inconscient.
Chers spectateurs, bonjour.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen.
L'équipe se porte bien.
Ping-pong.
L'exploration se poursuit.
C'est sur France Culture.
La question qui est la nôtre aujourd'hui est la suivante. De quoi est fait cet univers ?
Vous écoutez France Culture et vous avez une heure. À l'instant, la voix de Bernard Blanquant qui se demande bien comment est fait cet univers. On va peut-être y répondre dans Cosmodrama de Philippe Fernandez qui est ici avec Jackie Berroyer pour nous parler de ce drame cosmique et existentiel. Mélie Cohagnan, vous êtes également autour de la table de ping-pong pour votre première exposition au Centre Pompidou, Under Shadows, qui dure jusqu'au 29 août. Elle aurait aussi bien pu s'appeler Cosmodrama, cette exposition. Parce que si on y repense, la pièce centrale, Modeling Poetry, elle s'inspire d'une spéculation scientifique de la NASA qui prévoit la collision de la Voie lactée avec la galaxie d'Andromède dans 4 milliards d'années. Alors, est-ce que vous vous rendiez compte que vous étiez en train de mettre en scène vous-même un cosmodrama et puis comment vous y êtes pris ?
Techniquement, ce travail commence à partir d'une spéculation énoncée par la NASA en 2012 sur cette collision probable. Donc c'est la somme du savoir qu'on aurait aujourd'hui de la spéculation à la fois mathématique et projective. L'idée était de prendre conscience. Bon, moi je suis artiste, donc c'est une question de représentation dont il s'agissait, c'est-à-dire à savoir que étant inclus dans la Voie lactée, il n'y avait pas de représentation possible de tout ça. Et l'idée était d'aller un peu plus loin que les simulations faites par la NASA même, qui ont ce caractère un peu... on va dire, c'est des je sais pas comment les qualifier, mais bon, peu importe. En tout cas, ce que je cherchais à faire, c'était de produire une image à l'image de quelque chose. C'était donc l'idée de prendre les paramètres et le comportement des corps célestes et de l'attribuer au pixel même d'une image, c'est-à-dire à l'élément unitaire de l'image. Si on comprend après l'ensemble de l'exposition qui est plus complexe, mais tout ça fait référence toujours à des étalons. Il y aura donc l'étalon de la seconde dans un deuxième temps, en parallèle à tout ça. Et donc, ces pixels se comportant à l'image de ces corps célestes vont produire cette image, au final. Et donc, on aperçoit, on découvre pendant une vingtaine de minutes sur un écran LED qui est fait 5 mètres par 5 mètres et qui est posé au sol, surélevé par rapport au sol, mais à 60 cm du sol. On découvre effectivement très lentement, image par image, donc pas dans une fluidité classique d'animation, mais bien l'image apparaît toutes les 3 secondes, enfin s'anime toutes les 3 secondes, donc c'est très lent, ça renvoie aussi à la représentation scientifique de manière classique, et tout ça va produire cette collision de ces deux galaxies qui vont au final ne produire qu'une seule et même galaxie.
Alors à présent, on est donc...
Le professeur Oignon a parlé.
On est dans l'espace.
Et des ondes gravitationnelles.
Absolument, absolument. C'est ce qu'on observe tout autour en permanence.
On est bien avec le professeur Berroyer qui se dédouble en plus dans votre film Philippe Fernandez, puisqu'on est dans la description de l'entreprise de représentation de Mélie Cohagnan dans cette pièce monumentale au cœur de son exposition à Pompidou, donc Modeling Poetry. Parlons d'images pour commencer, peut-être avec vous qui êtes amateur de filmosophie, d'expérience de philosophie au cinéma, comme par exemple dans Léger tremblement du paysage. Vous aimez faire des films qui sont, et c'est tout à votre honneur, impossible à pitcher, comme on dit aujourd'hui en bon français, des films atomisés. C'est le cas, à nouveau, avec Cosmodrama, qui est découpé en cinq chapitres, en 14, pardon, chapitres, sinon 14 épisodes, parce que il y a à la fois de la série Star Trek, il y a pour moi les films de Tarkovsky, Solaris en tête, il y a peut-être Temps X des frères Bogdanov, et puis quelque chose de Pierre Paulin pour l'intérieur stretch de votre navette spatiale où se retrouvent donc des explorateurs qui sortent d'un long sommeil et qui sont un peu déboussolés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet imaginaire, peut-être cinématographique, et peut-être des autres mamelles qui ont nourri Cosmodrama?
Bon, l'imaginaire cinématographique, en effet, c'est principalement Star Trek, mais bizarrement, je suis très peu amateur de science-fiction. Je n'ai pas vécu Star Trek lors de son passage à la télévision dans les années 60, fin 70, voire début 80 en France. C'était à une époque où je regardais pas du tout la télévision. C'était un interdit moral absolu. Donc c'est plutôt l'idée que de la science-fiction soit passée, a été créée à la télévision américaine dans les années 60, qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. L'idée aussi que c'est associé à un certain kitsch qui est devenu avec le temps assez culte. Et donc j'avais envie de me réapproprier cette histoire-là, ce médium-là, sachant que dans la plupart de mes films, j'aime emprunter des formes préexistantes pour les amener ailleurs.
Un peu kitsch, tu dis. Pendant qu'on tournait, j'avais envoyé quelques photos... des amis, et il y en a un qui m'a dit « Allez, non, on dirait la boîte de nuit que tenait ma mère dans les années 70. »
Tu m'avais dit ça. Alors, en même temps, quand on parle de kitsch des années 70, moi, j'ai toujours un peu de mal parce que c'est des années que j'ai connues, c'est même des couleurs et des formes qui ont rayonné dans mon adolescence. Donc, j'ai du mal à considérer ça comme le kitsch. Enfin,
vous n'êtes pas en col roulé moulant moutarde, rappelons-le.
Mais il y en a dans le film, évidemment.
Là, je parlais du kitsch de Star Trek, là, qui effectivement, là, que je peux considérer comme plus kitsch. Moi, j'ai l'impression d'avoir tiré quand même tout ça, cette esthétique, vers plus de minimalisme, plus d'abstraction en fait. En revanche, effectivement, Star Trek m'a servi, c'est un réservoir effectivement de formes, de couleurs, de fonds unis qui m'ont permis d'aller vers cette abstraction. C'était plus facile d'aller vers l'abstraction en partant de Star Trek et surtout en partant d'un médium comme ça très populaire plutôt que de partir par exemple de Solaris ou d'autres références.
Jacques Perroyer, vous sentiez-vous dans un film de Tarkovsky pour justement la veste et le costume du professeur ou davantage dans une boîte de nuit des années 70 sur le tournage de Cosmodrama?
En tout cas, il vaut mieux se sentir, en l'occurrence, comme dans un film de Tarkovsky.
Il y a Tarkovsky qui est très bien aussi.
Il y a des danses endiablées aussi.
Star Trek,
le Looney.
Mais par rapport à ce que disait Mélico Agnan tout à l'heure sur ces images scientifiques, vous disiez, je ne sais pas comment les qualifier, celles que Thomas, vous avez voulu dépasser dans cette exposition au Centre Pompidou. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un contre-pied un peu burlesque de ce qu'est la parole scientifique et la mise en scène de la grande aventure scientifique Jacques Berroyer que vous incarnez, parce que c'est un peu le professeur en quête de ce mystère de l'univers et de sa matière noire?
Ben, un petit peu, ouais, un contre-pied, mais il y a aussi, je crois que Philippe a pas trop voulu s'embarquer dans la pure comédie. D'ailleurs, les gens peuvent le regretter, parce que des fois, quand c'est un peu marrant, et puis que ça ne l'est pas systématiquement, ils se disent, ça aurait été mieux, peut-être. Mais moi, je trouve que la manière dont c'est réparti me convient bien. Hein. Mais c'est vrai que c'était assez drôle, en tout cas, d'être avec un sujet comme ça, reculé d'une trentaine d'années dans l'esthétique et même dans le son, parce qu'il y a des musiques qui sont parfois... je dirais Pierre-Henri-esque.
Oui, il y a une fausse messe pour le temps présent à un moment qui est assez
ouais,
évidente.
Ouais. Et donc...
Donc là, il faut saluer Sylvain Clément, dit Gang Paul, qui est un des meilleurs musiciens de sa génération, me semble-t-il, que les gens qui s'intéressent à Electronica connaissent un petit peu au niveau international, et qui a effectivement créé une bande-son en rapport avec ce décor et avec cet esprit d'emprunt, qui est pas vraiment, qui est ni de la parodie, ni des détournements, mais c'est plutôt on reconstruit quelque chose qui nous est propre à partir de bases qui sont des bases culturelles communes, en fait.
Mélico Agnan, vous, quand vous parlez de votre travail au Centre Pompidou et en général, vous aimez utiliser le mot de contexte plutôt que d'exposition. Là, on a un peu tissé la cosmogonie de Cosmodrama. Pourquoi ce mot ?
Alors ça appartient un peu à nos préoccupations en tant qu'artistes sur cette notion d'exposition qu'on pratique autant que les œuvres. On a une responsabilité, enfin on a pris cette responsabilité depuis, entre guillemets, les artistes ont pris cette responsabilité depuis les années 90, on va dire. Et donc on est dans une approche et de l'espace même où sont exposées les œuvres autant que les œuvres mêmes. Donc là, la première idée était effectivement de prendre conscience où je me retrouvais, donc au Centre Pompidou et cette espèce de grosse machine qui était lui-même déjà un peu un vaisseau spatial en soi, un vaisseau de voilà qui vient des mêmes époques en fait, il y a plus de 35 ans. Et à partir de là, effectivement, de penser que cet espace devenait un contexte avec dans lequel on allait approcher des dimensions, c'était un peu le propos. Tout ça pour provoquer auprès du spectateur une espèce d'état de conscience en fait de ces dimensions qui sont le temps et l'espace. Et ces deux notions qui sont à la fois représentées mais aussi physiquement à pratiquer, on va dire, dans l'approche même de cet espace même qui se trouve à l'étage des collections, donc dans un enchaînement d'autres œuvres. Cet espace fonctionne un peu, donc il y a une moquette noire, qui a les murs gris, qui est référent au gris neutre de la représentation pour étalonner les appareils photographiques. Et puis cette seconde qui est là représentée, plus effectivement cette collision de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède, et ce point référent au plafond qui est donc ce miroir qui reflète cet ensemble. Et cet ensemble, en fin de compte, c'est ce petit point qui paraît énorme physiquement là dans l'espace, mais qui est à peu près l'équivalent du pixel aussi qui est sur cet écran.
De la tête d'épingle, hein, pour parler voilà, de Jacky Berroyer dans Cosmodrama.
Ouais. Et donc et tout ça fait qu'on doit trouver une place, on doit pratiquer dans cette conscience de l'espace et de cette représentation du temps, de trouver une place qui est possiblement une idée de à quelle échelle en fait se pratiquent les choses, quoi.
Voilà. Et on appelle ça contexte.
Alors non, c'est moi qui l'appelle contexte, faisant référence effectivement à ce qu'on met en place dans la science souvent, c'est-à-dire qu'on met en place des éléments dans un espace en espérant qu'il se passe quelque chose.
Ah oui.
Mais alors partons dans l'espace.
Ah, pardon.
On va quitter un instant, Jacky Berroyer, les murs gris du centre Georges Pompidou à Paris pour les murs cacadois et même aubergines de la station orbitale de Cosmodrama.
Vous avez dit trou ?
C'est de la matière, mais qui produit l'effet d'un trou puisque tout ce qui passe à proximité tombe dedans.
Un organisme moins intelligent, pardonnez-moi, serait entré dans le labyrinthe.
Du coup, ça vous fait un peu plus de probabilité pour que la conscience apparaisse. C'est une bonne nouvelle, non ?
Si ça vous suffit de trouver que les trous noirs se reproduisent entre eux pour expliquer ce qu'on fait là, franchement, si c'est ça pour vous la connaissance, moi je dis que c'est vraiment très incomplet. Terriblement incomplet.
C'est médiumnique.
Médiumnique.
Ben ouais, médiumnique. Vous connaissez pas la peinture médiumnique ? Eh bien, c'est quand on sait pas d'où ça vient.
Quelques éléments sonores du film Cosmodrama de Philippe Fernandez qui est en notre compagnie avec l'un de ses acteurs, donc Jacky Berroyer le professeur, il y a aussi le reporter, il y a des scientifiques, il y a encore un musicien qui interprète ici le titre Révolution de Sylvain Quément, une sorte de professeur Sigmund Freud aussi. Le musicien a quelque chose de Sébastien Tellier, pour ceux qui aiment la pop musique et les artistes barbus et chevelus. Jacky Berroyer, on vous s'est versé dans l'étude de la philosophie, en particulier celle de Benny Lévy, puisque, on peut le dire, aujourd'hui sort en DVD un coffret « L'engagement politique en question » chez Frémaux et Associés avec votre documentaire « Benny Lévy, trace d'un enseignement ». Mais oui. Là, vous êtes, disons-le, un astrophysicien. Vous avez dû étudier l'astrophysique pour ce personnage ?
Non, pas vraiment, mais j'ai lu quand même de la vulgarisation. Philippe m'a passé des livres où il y a des entretiens avec tous les savants d'aujourd'hui, avec la question centrale, est-ce qu'ils croient en le divin ou pas? Alors, c'est marrant, parce que c'est assez partagé, hein.
Ouais, ouais. Enfin, disons dans un principe créateur. Dans un principe créateur. C'est un des, je pense que tu fais référence à ce livre, un des bouquins comme ça que j'ai aimé distribuer au moment que j'ai écrit le, au moment où on a réalisé le film, parce que j'avais écrit le film en m'imprégnant de ce livre. C'est Le monde s'est-il créé tout seul, qui est un entretien réalisé par un journaliste avec des scientifiques de divers domaines. À partir d'un postulat de Trinh Dinh Tran, qui est un astrophysicien américain d'origine vietnamienne et bouddhiste par ailleurs, donc effectivement qui connaît la croyance, enfin qui a une certaine croyance en lui dans une espèce de principe créateur comme ça.
Il y a du Bergson qui est pas très loin non plus.
Oui, tout à fait.
Mais Jacky Berroyer, puisque vous n'êtes pas encore tout à fait. Pardon. Oui.
Non, juste pour dire que ce bouquin donc est basé sur ce postulat de Trinh Dinh Tran, que l'univers est en effet dirigé vers l'existence d'une conscience capable de l'observer. C'est ce qu'il appelle le principe anthropique, et que ça ne peut pas être le jeu d'un trop grand nombre de hasards qui explique qu'on soit là. Et donc, bien sûr, il est très isolé dans la communauté scientifique. En tout cas, c'est cette question qui est au centre du livre et donc du film.
Je veux pas croire que Dieu joue au dé d'Einstein, c'est ça?
Disons que la question, après la question du hasard, effectivement, oui, c'est très proche, effectivement, la question du hasard, parce qu'en fait, c'est ce que lui répliquent d'autres théoriciens, c'est qu'en fait, c'est ce qui est effectivement ce que tu dis dans le film à certains moments, c'est qu'en fait, si on est dans cet univers, c'est qu'il y a eu tellement d'univers qu'effectivement, toutes les probabilités, on peut se produire.
Multivers.
Alors voilà, dans le multivers, dont c'est ce qui est découvert dans le film finalement par le personnage de Jacky Berroyer. Et donc c'est ce qui permet l'existence de la conscience, l'apparition de la conscience, c'est qu'il y a eu énormément d'univers qui sont créés. Donc dans l'un d'entre eux, par hasard, il s'est trouvé que les causalités successives ont abouti à notre existence.
Donc Philippe Fernandez dit, on découvre le multivers, Jacky Berroyer ajoute comme au bistrot. Il y a effectivement une réflexion philosophique, on l'a dit, puisque c'est de la philosophie. Si on reprend quelques passages du film Cosmodrama, nous naviguons dans l'espace à bord d'un engin qui se conduit tout seul. Nous ne savons pas d'où nous venons, dis donc, ni où nous allons à bord d'un engin qui consomme des images. Apparemment, c'est ce qu'on attend de nous. Comment est-ce que ça a résonné, vous, justement, Jacky Berroyer, lecteur de philosophe, philosophage, philosophile, la thématique plus philosophique, plus métaphysique du film, au-delà donc de ce postulat scientifique qu'on a déjà évoqué?
Mais comme c'était difficile de se pencher là-dessus, d'en faire des déductions, moi je me disais souvent, c'est dommage qu'on n'ait pas des conversations un peu plates comme qu'est-ce que vous pensez du Centre Pompidou? Ah, moi j'aime pas beaucoup, je préfère le Forum des Halles. C'est esthétique, parce que parfois c'est un peu difficile. Il y a une partie ardue à entendre
néanmoins,
au cinéma.
Néanmoins, au catering, à table, assez souvent, les conversations reprenaient les thèmes des scènes. C'était assez drôle. Justement, il y avait assez peu de conversations plates, ou du moins, on évitait de me les faire entendre. Mais en tout cas, j'ai trouvé que finalement, il y avait, entre les comédiens du film et parfois les techniciens, chacun y allait sa petite théorie, répondait au scénario. C'était assez passionnant, en fait. Moi, j'ai pu observer que c'est des questions métaphysiques dont je sais qu'elles ennuient généralement la plupart des gens. Et je savais que je faisais un film qui risquait d'ennuyer la plupart des gens. C'est pour ça qu'il me fallait d'ailleurs des comédiens comme Jacky qui explosent à l'écran et qui rendent tous ces mots un peu difficiles à entendre, comme ça, avec une énergie et une sensualité. Magnifique.
Fallait le mettre sur l'affiche. Un film qui serait très ennuyeux s'il n'y avait pas Jacky.
Ouais, on aurait pu faire ça. Ça aurait été aussi un très bon pitch. En tout cas, j'ai remarqué que les conversations étaient assez animées finalement par ce sujet au final, et que ça intéressait finalement plein de gens, mais que finalement on n'ose pas en parler justement au bizarre.
Non, mais en fait, ça intéresse tout le monde. Seulement, bon, oui. C'est vrai que même quand on lit un livre de vulgarisation, il y a des moments, il faut une concentration de lecture.
Oui.
Mais sinon, c'est toujours vertigineux.
Mais en tout cas, c'est assez étonnant de voir que dans, parmi des techniciens ou des comédiens, on tombe toujours sur deux ou trois, voire plus férus d'astronomie, qui sont capables, effectivement, de nous parler de collisions de galaxies ou d'autres choses, et voilà, qui ont des connaissances certaines parce qu'ils ont bossé ça sans faire d'études, mais qui ont bossé ça par eux-mêmes.
Médiumnique, ça vient d'où, médiumnique, on a entendu ce mot tout à l'heure.
C'est un mot inventé, ça, oui.
Ah oui, voilà. Donc, si je me demandais, ça venait pas des conversations sur le tournage.
Mélico Agnan, précisément, vous vous emparez aussi de ces questions à votre façon singulière dans l'exposition Under the Shadows à travers différentes pièces. On a parlé de modeling poetry qui prend son temps, mais si on parle justement du rapport au temps, on est dans un long métrage avec Philippe Fernandez. Vous avez choisi, au contraire, pour la série des photographies Césium, vous avez plutôt choisi, vous êtes du côté de la furtivité. Parlez-nous justement de votre rapport à la durée, en particulier pour cette série de photographies qui sont dans des caissons lumineux et qui sont particulièrement éphémères.
Il y a effectivement sept caissons lumineux au fond de l'espace qui s'appelle donc Portrait of Duration, donc le portrait de la durée. Et c'était ça a été la tentative de mettre en place une expérience avec le césium 133, qui est donc ce matériau qui définit qu'on utilise pour définir la seconde dans les horloges atomiques, donc qui sont mises en place depuis 1967 et donc il y a un moment, enfin voilà. On n'est pas trop au courant de cet événement de la fin des années 60, mais qui est quand même sacrément important de passer de cette notion du temps astronomique, donc en référant au comportement des astres, à effectivement cette seconde qui devient d'une précision impressionnante, quoi, au travers ce matériau, et qui permet de poser sur Terre le temps universel coordonné. Ce qui fait qu'effectivement, on a un étalon du temps, pour finir. Et donc, l'idée de ce portrait de la durée était de manipuler en fait ce césium 133 qui se comporte un peu à l'image du mercure, donc qui change d'état à température ambiante à peu près à 28 degrés, et l'idée était d'essayer d'observer son changement d'état, donc de l'état solide à l'état liquide en une seconde. Et au final, donc, il y a sept photographies qui décomposent en fait cette seconde-là et qui n'apparaît qu'une seconde. Donc on est pendant 59 secondes face à sept caissons lumineux qui sont noirs, réfléchissant l'espace même d'exposition et aussi l'attente du spectateur. Et tout d'un coup, effectivement, la seconde est recouverte par elle-même, par le matériau qui l'a définie. Donc ça, c'est le type de boucle conceptuelle qui m'intéresse de travailler. Et puis, dans la suite de l'espace, après, on tombe sur 60 représentations de ces qui viennent de ces mêmes expériences, mais qui sont cette fois-ci des photographies en noir et blanc, et qui sont nommées T référant 1 à une numérotation, et donc qui réfèrent à cet instant T de la représentation même. C'est pas très simple, hein, tout ça, mais bon, bref.
Dégeler le temps.
Voilà.
Donc, une mise en abîme de ces moments où on fige la durée dans la photo.
Alors, presque une mise en abîme, c'est plutôt une tautologie, en définitive, puisqu'on se met à représenter le temps par la matière même qu'il le définirait à un moment où il est figé. Voilà. Et tout ça produit, en fin de compte, 60 représentations. Où là, on rentre dans une dimension plutôt poétique que scientifique et conceptuelle, et donc qui crée un ensemble de mondes, en définitive.
Alors, pour tout ce qui est définition, tautologie et autres, hein, je vous renvoie au nouveau chemin de la connaissance, c'est sur France Culture tous les jours. C'est vraiment bien, c'est à 10h, les trous noirs de la connaissance. Hein, c'est comme ça qu'a failli s'appeler le film de Philippe Fernandez. On réécoute un extrait.
Cette histoire de ballon qui gonfle, là, franchement, c'est plutôt trivial. Hein. Beaucoup moins poétique, en tout cas, que l'éternité.
Jackie Berroyer, pouvez-vous nous refaire la démonstration scientifique? Je voyais vous lever la main.
Oui, là, il y a un truc marrant qui s'est produit hier. Il y avait une projection, une avant-première. Et c'était d'ailleurs très très bien passé, avec beaucoup de gens. Vous savez, les gens restent devant le cinéma à parler pendant longtemps. C'est bon signe. Parce qu'en général, sinon, ils ont un problème. Il y a un babysitter, c'est tout ça. Bon.
Ça marche bien.
Et alors, il y a eu un moment où il y a eu une panne de son. Alors, on voyait une scène où trois personnages parlaient autour d'un écran. Et ils disaient,
ta grande scène, Jackie, ta grande scène.
Ils considèrent que c'est ma grande scène. Et alors, on ne l'a pas entendu. Et alors, bon, ça durait 2 ou 3 minutes. Et à la fin de la projection, Philippe est venu dire au spectateur, ben, je vous remercie d'être venu, je suis désolé un peu pour l'incident. Et alors après, devant la porte, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Et une bonne partie d'entre eux m'ont dit, on se demandait de quoi ils nous parlaient. Alors ben, moi, je leur disais, de la panne. Quelle panne? Ils ont cru que c'était une figure de style. Et ils ont, il y a beaucoup de gens qui ont pensé, étant donné le genre de film, que ça pouvait très bien être comme une audace, comme il y aurait eu dans les années 70, ou un Godard quelconque aurait dit, ben là, il n'y aura pas de son, etc. Alors ça, c'est... Alors j'ai dit à Philippe, tu devrais maintenant, tu devrais le fixer, ce truc. Et il a dit non, comme c'est pas moi qui... Comme c'est pas une idée que j'ai eue, je peux pas l'assumer.
Et pour revenir à l'extrait qu'on a entendu, alors avec le son, heureusement, vous, mais peut-être pas heureusement, parce que c'est un parti pris esthétique que vous proposez, il se passe donc que vous gonflez un ballon, et en tant que professeur, dans ce film Cosmodrama, vous nous expliquez qu'au départ, l'univers est une tête d'épingle, et que finalement, il s'est dilaté.
Oui.
Il y a donc une représentation, on va dire, prosaïque, matérialisée d'une vérité scientifique, et j'ai l'impression que dans le film de Philippe Fernandez, comme dans le travail de Mélie Coignon, il y a cette idée que finalement, la vérité scientifique nous intéresse peu. On travaille sur l'irreprésentable, mais c'est une matière poétique, en fait. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous avez représenté l'irreprésentable, Mélie Coignon, en faisant cette collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède?
Oui, c'est, effectivement, il n'y a aucune vérité, même si je me permets d'appeler cette exposition un contexte plutôt qu'autre chose. C'est pas pour tendre vers une vérité. Maintenant, il y a une somme de savoir là-dedans. Il y a une somme de... Il y a tout ce qui est de l'ordre de la spéculation mathématique qui permet d'appréhender tous ces comportements et de les imaginer. Dans cette dimension imaginaire, si on s'attarde à la représentation de ces choses-là en dehors du caractère scientifique même de ces choses-là, effectivement, on peut toucher une dimension poétique même. C'était un peu l'ambition de cet espace, c'était rentrer dans des dimensions. Plutôt que des œuvres comme on aurait l'habitude de voir, il y a une autre pièce qui est dans cet espace qui s'appelle Gradient et qui est donc l'éclairage même de cette exposition, qui est faite de 80 ampoules lumineuses qui sont alimentées de 0% à 100% d'intensité jusqu'à chaque coin de l'espace et qui commutent au bout d'un moment, ce 100% devenant 0% et ainsi de suite. Tout ça fait que là, en fait, il y a une variation toutes les deux minutes de l'éclairage de l'exposition qui donne accès donc à la lecture des photographies et qui, pour finir, va faire se déplacer le visiteur en prenant conscience de l'espace même où il se trouve, puisqu'effectivement, le rapport à la visibilité, à l'invisibilité des œuvres fait qu'on se déplace dans l'espace. Et tout ça va faire que le spectateur, au final, va se mettre en gravitation même autour de la pièce centrale, qui est donc Modern Poetry, qui est donc la remise en question de tous ces dispositifs, de tous ces phénomènes gravitationnels.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission volontiers en apesanteur qui explore les multivers et les dimensions de l'imaginaire et de la poésie.
Nous nous exposerons volontairement aux radiations cosmiques dans quelques instants avec nos invités Jacques Hiberoyer, Philippe Fernandez et Mélie Coignon.
Mais tout de suite, nous nous exposons au savoir luminescent et cosmique de Zoé Sfez, le journal de la culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde,
bonsoir
à tous.
Zoé, je suis céleste Zoé.
Le cosmique et l'univers, comme la nuit, sont encore jeunes et de jeunesse. Il est question précisément dans votre dossier ce soir au cœur de, non pas de la galaxie, mais du journal de la culture, une étude sur la jeunesse et la lecture, commandée par le Centre National du Livre. Dévoilée aujourd'hui, elle révèle, Zoé, que si les jeunes, et en particulier les enfants, aiment beaucoup la lecture, à l'adolescence, eh bien, cela change, puisqu'il existe un fort risque de décrochage. On y apprend aussi que le rapport à la lecture reste encore très genré.
Oui, alors cette étude commandée donc par le CNL, le Centre National du Livre, elle a été réalisée par Ipsos auprès de 1500 jeunes de 7 à 19 ans. C'était une étude en ligne sur Internet avec l'aide pour les plus jeunes de leurs parents. Alors commençons donc par les bonnes nouvelles. Et oui, les jeunes lisent et en plus ils aiment ça pour le travail, pour l'école à 89%, mais par goût personnel pour leur loisir à 78%. C'est un chiffre important. Ils lisent en moyenne 6 livres par trimestre, dont 4 dans le cadre de leur loisir. Ils y consacrent 3 heures par semaine au moins juste pour le plaisir. 77% d'entre eux déclarent qu'ils aiment lire. C'est des chiffres qui sont assez intéressants parce qu'on avait quand même l'idée, eh bien, que c'était une activité en déshérence, notamment à l'aune de l'arrivée des séries et d'Internet. Ce que cette étude révèle, c'est l'importance de la lecture à haute voix, figurez-vous, plébiscitée par tous les jeunes enfants, mais aussi par les ados. Étude qui confirme aussi le rôle déterminant de l'environnement familial. Ça va plus ou moins avec, vous allez me dire. Plus les parents ont lu des histoires, plus l'enfant va lire. Il révèle aussi une nuance, cette étude, c'est la nuance sur le rôle du père, nous explique Vincent Monadet, le président du Centre National du Livre.
Quand il y a lecture le soir, les enfants la plébiscitent et ça aide à faire des lecteurs, et que c'est plutôt la mère qui lit des histoires, c'est plutôt la mère qui prescrit, mais quand le père aussi se joint à la mère pour prescrire et pour lire, alors là, on a 83% de mémoire de jeunes qui déclarent lire et aimer lire. Le rôle des deux parents ensemble sur la lecture est fondamental. Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, de même que le rôle de la chambre, le rôle de l'intimité. On voit bien que c'est la chambre à coucher qui apparaît être le lieu où on lit, plébiscité par les jeunes et les adolescents. Et c'est donc l'affirmation que la lecture est un moment de l'intimité. La lecture à haute voix quand on est enfant, qui malheureusement ne se prolonge pas à l'adolescence, mais aussi la lecture par soi-même, qui permet de dépasser la lecture à haute voix et de devenir un lecteur.
Notre rapport à la lecture reste donc très lié à l'environnement familial, Zoé, mais aussi au genre, et donc les institutions jouent aussi un grand rôle, peut-être qu'elles s'introduisent jusque dans notre chambre à coucher, en tout cas jusqu'à un certain point.
Oui, alors, on l'a dit, effectivement, c'est très lié à l'environnement familial, puisque, évidemment, plus il y a de livres dans la maison, plus on lit. Et, on le sait, le rapport à la lecture, depuis le 19e siècle, reste genré, et c'est toujours le cas. Les filles restent de bien plus grandes lectrices que les garçons. Elles lisent en moyenne une heure de plus que par semaine, c'est quand même énorme. Et aussi, elles privilégient le roman comme genre préféré, alors qu'il s'agit de loin de la BD ou du manga pour les garçons. Cette étude révèle aussi le rôle déterminant des institutions. En effet, 40% des jeunes ont une carte bibliothèque et ils empruntent des bouquins contre 17% pour les adultes. Donc les bibliothèques jouent un très grand rôle, tout comme le fameux CDI, ce fameux centre de documentation et d'information qu'il y a dans votre collège ou dans votre école primaire. Lieu privilégié de la lecture, plaisir, ça clairement on l'ignorait. L'école primaire semble jouer un rôle assez déterminant dans la prescription et ça marche plutôt très bien, mais tout bascule, tout au collège, car le taux de lecture loisir baisse drastiquement. Très fortement. Si les ados continuent à lire, eh bien, ce sont surtout ceux qui sont déjà devenus des grands lecteurs dans l'enfance. Mais on découvre aussi, grâce à cette étude, un nouveau profil. Les lecteurs et auteurs même de fanfiction. Vous savez ce que c'est les fanfictions ? Ces histoires, parfois ces romans publiés sur Internet par des fans de certaines grandes sagas, de certaines grosses séries. Alors, effectivement, il y a à boire et à manger, on peut le dire. Mais c'est un phénomène nouveau, extrêmement fort, très intéressant, nous explique Armelle Vincent. Elle est directrice de clientèle chez Ipsos et c'est elle qui a coordonné cette étude.
À cette question, 12% donc des jeunes nous ont déclaré en lire et 4% en écrire. Et donc effectivement, comme c'était une question assez nouvelle, on a souhaité un peu creuser le profil de ces lecteurs de fanfiction. Et ce qu'il en est ressorti effectivement, ce sont des jeunes qui consacrent beaucoup de temps à la lecture, puisqu'ils y consacrent 4h30 par semaine versus 3h en moyenne sur l'ensemble des jeunes. Donc ce sont des jeunes qui aiment lire, qui sont également aussi très lecteurs de livres numériques. 44% en ont déjà lu, 28% en ont lu plusieurs. Et ce sont également des jeunes qui consacrent beaucoup de temps à Internet, 10h20 en moyenne par semaine et 8h40 à leur smartphone. Mais en tout cas, la lecture est pour ces jeunes très importante. 85% d'entre eux le dit. Et ils aiment également parler des livres qu'ils ont lus avec leurs amis pour 68%. Donc plus des deux tiers de ces lecteurs de fanfiction partagent ces lectures avec ses amis.
Et donc ces fans de fanfiction, Zoé, sont peut-être une piste, une population à suivre pour tenter de comprendre et de remédier à l'abandon de la lecture à l'entrée du collège.
Oui, parce que pour Vincent Monadet, le directeur donc du Centre National du Livre, c'est finalement au moment de l'adolescence qu'il faut que le CNL agisse pour tenter eh bien, d'entretenir le rapport à la lecture, puisque ce décrochage de l'adolescence, il est à comprendre à l'aune de l'abandon progressif de la notion de lecture pour le plaisir qui doit absolument être réinvesti.
Ben, quand on est enfant, on est très dans la prescription par les parents et le décrocher à l'adolescence, parce qu'on voit bien que les adolescents lisent moins que les enfants, même s'ils continuent à aimer lire. Il vient aussi du fait que ce qui est proposé par l'école, qui a comme rôle de créer un socle minimum de connaissances et donc de proposer des textes difficiles aux enfants pour qu'ils connaissent l'histoire de la littérature française, n'est pas forcément suivi par les adolescents et que donc il y a tout un pan de la littérature lue par les jeunes qui échappe à notre prisme de regard d'adulte. On voit l'émergence évidente d'Harry Potter, mais aussi de séries comme One Piece, comme Eragon, ou comme Divergente, ou comme After, selon les âges, ce qui plébiscite. Je ne crois pas que le rôle de l'école, ce soit de promouvoir le loisir et le plaisir. Qu'en revanche, nous, nous soyons rentrés nous-mêmes dans la prescription de ce qui doit être lu, entre guillemets, une forme de germanopratie sur l'absolu de la littérature, alors que nous devrions plutôt glisser vers la partie lecture-loisir, ça paraît être une question essentielle pour le CNL dans les années qui viennent, oui.
Voilà, alors le CNL qui a quand même mis en place une manifestation Partir en livre dédiée à la jeunesse, justement sur la base de ce type de volonté, qui tiendra en juillet prochain, avec cette année justement une soirée consacrée à la lecture et l'écriture adolescente. C'est justement l'idée pour Vincent Monadet de proposer une politique plus forte toute l'année, qui prenne en compte donc ces fameux goûts des ados, sans de volonté prescriptive, et qui l'entretiennent notamment en proposant aussi des ateliers d'écriture, puisqu'on l'a compris, le goût de la lecture, ça passe aussi par le goût de l'écriture, car si les grands lecteurs, une fois qu'on les a touchés à 12 ans, ils existent et ils liront toujours, ce sont les petits et les moyens lecteurs avec qui il faut travailler pour que malgré tout et malgré évidemment la concurrence d'Internet, ils continuent à entretenir un rapport même ténu avec la lecture.
Bientôt dans Ping Pong, une ou un auteur de fanfiction. Là, Jackie Varoyé, je sens que vous avez envie de nous dire quelque chose.
Non, mais, enfin moi je pense que c'est le porno en ligne qui a désenchanté le sexe. Alors maintenant les jeunes, ils disent « tu viens faire l'amour ?» et ils disent oh, « laisse-moi lire ».
Dans les fanfictions, il y a pas mal de sexe.
Il y a pas mal de sexe, et là aussi, il y a à boire et à manger. Mais bon, passons au bref, Mathilde.
À une autre lecture solidaire, celle-ci, Zoé.
Oui, et cette soirée qui aura lieu jeudi au Théâtre de l'Atelier à Paris, en partenariat avec le Théâtre de Nice, au profit de l'association France Terre d'Asile, avec une lecture de la pièce Lampedusa Beach, de Lina Prosa, avec Romane Bourringer, dans une mise en scène d'Irina Brooke, suivie d'un concert. Tous les bénéfices iront donc à l'association France Terre d'Asile, qui vient en aide aux migrants et aux demandeurs d'asile depuis 71. Elle est notamment présente à Calais, et elle a vu, évidemment, son action explosée depuis le début de la crise migratoire de ces derniers mois.
La ville de Bordeaux veut transformer son ancienne base sous-marine en lieu culturel de prestige.
Cette base sous-marine, bâtiment pharaonique, indestructible, construit en bord de Garonne par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, bunker de 12 mètres de haut sur 42 000 mètres carrés au sol, sera bientôt consacré entièrement à la culture, à l'art contemporain, annonce la mairie. Mais il y a des travaux d'un coût extrêmement élevé, alors que la base coûte déjà au total 1 million d'euros par an, prévient la ville. La base accueillera donc des expositions, mais aura aussi vocation à accueillir des artistes d'envergure, des plasticiens, mais aussi des artistes sonores.
Merci Zoé. On est mignons.
Mathilde Cérel, Martin Kénéen.
C'est vous qui faites ça?
Ouais.
Ping Pong.
Qu'est-ce que c'est?
C'est sur France Culture.
Je sais pas. C'est médiumnique.
Dans la station orbitale de Ping Pong avec nos invités Mélie Cohagnon, Jackie Berroyer et Philippe Fernandez, auteurs de Cosmodrama. On entend ici un nouvel extrait de la bande-son épatante de Sylvain Quément, Radiation Cosmique. Dans ce film, Cosmodrama, non content d'agiter des idées métaphysiques, des idées essentielles à tous et à toutes, comme la lecture, Philippe Fernandez, vous usez de tout. Les artifices du cinéma, il y a le travail sur le son, la musique, on l'entend, les bruitages, les effets spéciaux, le dédoublement des personnages, à commencer par le professeur incarné par Jackie Berroyer, il y a cette inversion, cette polarisation de la lumière. Quel sens tous ces artifices prennent-ils dans votre quête interstellaire?
Alors, un certain nombre d'éléments, des images ou des sons ont une dimension métaphorique. Pas tous, parce que vu que j'ai il y a bien longtemps refusé d'ancrer mon cinéma dans le simple fait de raconter une histoire, mais de le baser sur d'autres choses, de construire un propos et de construire quelque chose qui s'apparenterait plutôt à...
Un contexte, comme dit Mélie Coignon, qui est avec nous.
Non, alors non, j'ai fait une œuvre contextuelle. C'est-à-dire que j'y m'est arrivé pour mon premier court-métrage de le projeter à l'endroit où il avait été tourné. Donc là, je pense qu'on était vraiment dans le super contextuel.
Ça, je l'ai fait aussi.
Voilà. Et donc, de proposer comme ça en miroir des spectateurs fictifs à des
dans une caverne
réelle. Alors, c'était ce qui était là la métaphore de la caverne, si on peut. C'était un vieux cinéma. Mais là, dans Cosmodrama, dans le contexte, justement, il est très abstrait. Il est très abstrait. S'il y a du contexte, en fait, ce sont les images qui sont visibles par les hublots, enfin, l'univers visible par les hublots. Et justement, je voulais que ça ait une grosse qualité d'image. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait l'impression qu'on navigue, en fait, dans les images de la NASA, dans Internet, voire dans un livre de cosmologie qu'on aurait ouvert. Et donc, je voulais vraiment qu'on ait presque cette impression, qu'on ne soit pas trop sûr, mais qu'on sente que ça puisse être effectivement des photos qui auraient été tendues derrière les hublots. C'est ça qui m'intéressait, en fait, ce voyage dans un parcours assez, dans un rapport assez intellectuel et mental à l'univers.
Là, tu parlais de la caverne et ça me faisait penser à... Pour reparler du document sur Benny Levy là, que j'ai initié, qui
documentaire, oui, qu'on retrouve en DVD.
Ouais. Il y a un moment, en fait, il donne des cours à ce moment-là à des élèves qui sont en lettres modernes et en première année, tout ça, et donc ils ont une option de philo et puis c'est tout, ils y viennent et donc c'est pas des gens qui sont très investis dans la philo. Alors il leur dit, faut être passé par une bonne classe de terminale. Pour bien connaître la caverne. Et au bout d'un moment, il leur dit un bon prof de philo doit rendre inoubliable l'allégorie de la caverne. Et alors il les regarde, il dit bon ben non, alors je crois qu'il n'y a pas eu de bon prof, alors moi je vais vous la faire et tout ça. Et c'est fantastique la manière dont il...
On parle de la caverne de Platon et pas de spéléologie, hein.
Bien sûr, mais parce que grâce à Jacques Berroyer, bientôt, et Benny Levy, plus personne ne pourra oublier ce mythe de la caverne. Vous avez été...
Ah, oui, non, juste
attention, une réaction...
Après cette parenthèse sur la caverne, non, pour continuer et terminer rapidement sur la question qui avait été posée sur les ingrédients cinématographiques. En fait,
la pyrotechnie
de mon film. Non, disons, l'idée, c'était aussi de donner aux spectateurs un grand nombre de plaisirs cinématographiques et donc de traiter tout ce qui pouvait l'être en ce sens-là. Donc aussi bien le son que les couleurs, que les comédiens, que l'humour, etc. Parce que, effectivement, je m'attaquais à un sujet qui n'est pas facile, qui effectivement sont des questions métaphysiques essentielles. Et en plus, j'avais l'ambition, à travers ce film, de transmettre de vraies informations scientifiques, c'est-à-dire de transmettre des informations qui, moi, m'ont émerveillé, étonné, dans les bouquins de vulgarisation scientifique, avec vraiment cette ambition de faire un film qui serait basé sur des vraies informations, un film de fiction qui serait basé sur des vraies informations, et les faire découvrir comme ça. Mais pour pas que ça soit austère, l'idée était, et aussi pour produire un objet de cinéma singulier, parce que mon travail, c'est non seulement de m'intéresser au monde et à l'univers, mais surtout de produire du cinéma, des formes. Donc j'ai investi au maximum effectivement les formes qui me seraient données de pouvoir utiliser dans ce, alors je sais pas si c'est ce contexte, mais en tout cas cette situation un peu fermée et un peu tenue, quoi.
Quand on parle de caverne, sans parler de lecture philosophique ou scientifique, il y a tout simplement une question Philippe Cadicane qui est posée par le film, qui est qu'est-ce qui nous fait croire que la réalité existe sans nous, que ce n'est pas une illusion.
Une illusion.
Ça,
illusion,
ce sont aussi des choses qu'on a pu voir donc dans la littérature de Philippe K. Dick,
mais dans la science aussi.
C'est le concept de Berkeley.
Jacques Berroyer.
Bah le fait de se poser la question. Berkeley dit être, c'est être perçu. Alors effectivement, on peut se demander. Si le monde existe, s'il n'y a pas des cerveaux pour l'apercevoir. D'ailleurs, j'avais un ami qui avait écrit un livre sur Berkeley, qui me disait que son fils lui avait dit, et alors, si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit quand même? Et il disait, ça, c'est le problème de Berkeley.
Mélie Coignon, pour replonger dans l'exposition Under Shadow, ce que vous présentez au Centre Pompidou, où vous alliez d'ailleurs enfant avec votre papa, Rajak Ohanian, qui était photographe. Comment justement vous l'avez conçu, vous, avec votre dispositif, on va dire, d'écriture de plasticien? C'est-à-dire, vous aussi, vous aviez à piocher dans une multiplicité de supports et de médiums, et à réinventer justement une grammaire par rapport à ça, faire une fiction à partir de la science. Dans quoi vous avez pioché?
Il faut rattacher cette expérience de cette exposition et ces questions qu'on va avoir avec la cosmologie et tout ça. C'est pas le cœur de mon travail de manière générale. C'est une dimension de mon travail. Donc moi quand on appréhende tout ça depuis l'atelier, c'est une succession d'idées plutôt conceptuelles à la base et après qu'on met en forme. C'est-à-dire que j'ai pas de, moi je réponds à rien. Je sais pas. Ça se monte pas comme un film, quoi. C'est-à-dire il y a pas, tout est ouvert.
C'est médiumnique alors.
C'est possiblement médiumnique, effectivement. Et la question, voilà, il n'y avait pas d'idée. Encore une fois, c'est pas facile à. Enfin, je m'aperçois à quel point l'art contemporain est décalé face un peu au monde et c'est bon, voilà. Comment effectivement à l'échelle d'un musée faire un trou noir quand on est allé à l'étage 4, on est dans c'est un peu l'inverse du white cube. Le white cube, ça a été ce qui a dominé toute l'expérience muséale depuis plus de 20 ans.
Espace
d'exposition blanc renvoyant effectivement à la présence de l'œuvre même. Là, tout d'un coup, effectivement, au quatrième étage, quand on arrive au bout de ce couloir à droite, pouf, on a l'impression de plonger dans un espace qui n'est pas où toutes les dimensions sont prises en compte. Du sol au plafond, le regard en fait doit s'élever, le regard doit plonger, le regard doit parcourir quelque chose et pratiquer quelque chose. C'est dans cette pratique qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario dans ces espaces-là. Il y a effectivement une expérience à vivre. Donc il faut y aller en définitive, il faut la pratiquer et après, enfin, ce qui est intéressant, c'est que quand je mets en place ces choses-là, je me pose la question du spectateur même, où il va se positionner et qu'est-ce qu'il va ressentir. Et après, effectivement, je suis curieux de ce que va renvoyer le spectateur. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré les œuvres comme un réceptacle. Si on n'y projette rien, il n'y a rien qui nous revient.
Il y a bien quelqu'un qui doit entendre l'arbre tomber.
Absolument.
Mais...
Ping-pong. La culture sans limite.
Zoé, vous êtes de retour. L'horloge atomique du studio 108 nous impose sa cadence.
Oui, alors effectivement,
je voulais juste, parce que je repensais à quelque chose que disait Philippe, à savoir qu'il avait essayé de toucher à tous les aspects du cinéma, mais il n'avait pas les moyens tout de même de faire de la 3D, et du coup il a triplé mon personnage.
Il a pris des acteurs,
c'est
encore mieux.
C'était par carence.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Alors est-ce que vous allez nous faire passer du son en 3D, en binational, en binaural ?
Eh ben non, mais ça vaudrait vraiment le coup. En tout cas, on entend beaucoup de choses dans ce disque, un disque assez extraordinaire qu'on est fier de vous présenter, on n'a pas peur de le dire. Le disque préféré cette année de notre programmateur musical Thomas Beau, il l'a dit, le bien nommé. C'est un disque qui s'appelle Yo estaba que me brava. J'étais à m'embraser. Alors, c'est un très beau titre, c'est le fruit, ce disque, de la rencontre entre deux musiciens assez exceptionnels, des fricheurs curieux du monde, la chanteuse Marion Cousin, qu'on connaît notamment parce que c'est la voix du duo June et Jim, et qui, depuis des années, a recueilli les chansons du folklore des îles de Majorque et Minorque, les îles Baléares, où depuis des temps millénaires, puisqu'on sait que les insulaires ont cette caractéristique-là de se transmettre les choses, on se retransmet des chansons qui accompagnent le labour, la cueillette, les histoires d'amour, comme un peu partout ailleurs. Répertoire qu'elle a voulu revisiter avec des musiciens qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick, et notamment le brillantissime violoncelliste Gaspard Klaus, magicien, explorateur du son et du monde. Le résultat, on va pas le faire très long, est assez magistral, atemporel, nous embrase. On peut le dire, démonstration avec Areo Areo Segado.
Areo Areo Segados, que se me donna se queixa. Perché splatlia torna ceixa, e sa farina segó. Perché splatlia torna ceixa. Sing
Yo estaba que me brava, cet album Areura Areu Segado en est extrait. Donc ce disque, produit avec la très très belle voix que vous aurez reconnue de Marion Cousin et le violoncelle cosmique de Gaspard Claus, on peut au moins le dire. C'est donc, il est sorti vendredi et c'est le premier disque sorti sur le nouveau label que Gaspard Claus a mis en place, qui s'appelle tout simplement Les Disques du Festival Permanent, qui recèlera bientôt, on est sûr, d'autres petites merveilles.
Nous voilà embrasés.
Merci Zoé.
Ping-pong. Du fond de l'espace, c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous trois, Méliko Agnan, Jackie Berroyer, Philippe Fernandez. Méliko Agnan, donc votre exposition vous invite hein, toutes et tous à découvrir ces trous noirs et chatoyants Under the Shadows. C'est jusqu'au 15 août au Centre Pompidou à Paris. Philippe Fernandez, votre film c'est Cosmodrama dans lequel joue Jackie Berroyer. C'est en salle demain. On peut rappeler aussi qu'il n'y a pas que Jackie Berroyer, un grand singe et un chien dans cette station orbitale. Il y a aussi bien sûr votre complice de toujours, Bernard Blancan, Emilia de Roux-Bernal, Hortès Holtz, Serge Larivière, Sacha Lay, Emmanuel Moineau et Stéphanie Schuller.
Le ping-pong est une parabole radiophonique qui se conçoit en équipe et qu'à l'équipe. À la rédaction, Aïssette Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale qui s'est régalée Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Bruno Gagnard-Fontanil et Lucas Vaillant.
Et si on jette une poignée de césium pour savoir ce qu'il en sera demain dans Ping-Pong, Mathilde?
Demain, Ping-Pong en hommage au cinéma de Solveig Anspach pour la sortie du film posthume de la réalisatrice avec la comédienne Florence Loiret-Caille et le producteur Patrick Sobelman. Ils l'ont tous deux suivi dans ce qu'on a appelé la trilogie fauchée, Scrapout, Queen of Montreuil et le dernier, L'effet aquatique en salle demain.